philosophie éthique par le père Philippe Saint-Jodard, le 26 avril 1988.
La dernière fois, je vous rappelais comment la tempérance se situe au niveau de l'éthique humaine. On pourrait ajouter dans l'éthique religieuse à la tempérance le jeûne. Ça se répand, même chez des théologiens. justifier philosophiquement. Parce que ce n'est pas la foi qui me fera discernement. C'est l'expérience. Pouvons-nous dire que la sensibilité d'un enfant est commandée par un tout petit, est commandée par le pendu sexuel. Et le pansexuel, comme on dit, c'est-à-dire le sexuel qui prend tout. Donc qui ne fait plus cette distinction qu'Aristote faisait entre le point de vue du sensible et le point de vue proprement de l'appétit à l'égard de ce que représente l'union sexuelle en vue de la procréation. On ne fait plus la distinction avec Freud. Vous voyez, il y a quelque chose d'analogue entre sensible propre et sensible commun. Je dis quelque chose d'analogue. C'est tout à fait différent. Mais la distinction sensible propre et sensible commun, qui n'est plus faite à partir de Descartes, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'analogue entre l'appétit de l'individu à l'égard du boire et du manger? C'est un instinct naturel, ça. Avoir faim. L'appétit naturel, l'amour naturel que j'ai de la nourriture. Et l'amour naturel que j'ai de la boisson. Quand il fait chaud, quand j'ai soif, il y a un appétit naturel qui me semble être lié à l'individu et à la sensibilité de l'individu et aux passions qui suivent l'expérience qualitative de l'aliment, du point de vue du goût et de l'odorat, puisque les deux sont liés. Là, il y a quelque chose là qui important à saisir. Et la vertu de tempérance donne une maîtrise personnelle à l'égard de cet appétit sensible vis-à-vis de l'aliment, vis-à-vis de la boisson, qui fait que je mange humainement et non pas comme un petit animal, un petit cochon. Le cochon. À Rimont, ça se voit tout. On a des exemples frappants. Ça. C'est extraordinaire. Et c'est bon de voir un cochon manger. On peut pas faire la même chose. Pour comprendre que la vertu de tempérance fait que boire et manger est un acte humain. C'est pas la vertu qui rend ça, parce qu'il faut acquérir la vertu. Donc, avant la vertu, il y a un acte humain qui consiste d'user de la nourriture humainement. Et user de la nourriture humainement, c'est faire que l'usage de la nourriture soit ordonné développement de ma personnalité, de ma personne humaine, et ordonné au lien d'amitié philanthropique, le repas commun. Le repas commun, même quand il y a la lecture, le repas commun implique une certaine philanthropie. Certaine amitié. On mange ensemble. Et au plan religieux, on mange ensemble pour glorifier Dieu. Le repas devient quelque chose de liturgique. l'usage de la nourriture devient humain, donc est finalisé par ma santé. Je mange pour garder la santé. Donc je suis responsable en face de Dieu. Je n'ai pas le droit de massacrer mon corps indûment. Parce que Dieu me donne la responsabilité à l'égard de mon corps. Donc je dois manger pour la santé. Et ma santé me permet de servir Dieu. Vous voyez, la vertu de tempérance permet de me libérer de l'appétit, de la nourriture, de ne pas y penser toute la journée. Autrement, je penserai toute la journée aux oignons d'Égypte ou au chocolat suisse ou au chocolat belge. Là, je penserai toute la journée. Ou pour l'alcoolique, il pensera toute la journée à l'alcool. Ou celui qui aime le vin, ou mon petit verre de vin. Celui qui aime la choucroute. Mais la vertu libère de l'aliment. C'est une libération. Toutes les vertus sont une libération. Me libère de ce fait. Très bien, je suis très heureux de manger à midi, très bien. Mais le reste du temps, je n'y pense pas. Quoi. Même s'il y a des odeurs de cuisine, je n'y pense pas. Je dépasse ça, j'ai autre chose à faire, quoi. Que de penser toujours à midi, telle ou telle chose, le mardi, mercredi. Mais j'y pense pas. L'imagination liée à l'appétit sensible est dépassée par la vertu. C'est très important de comprendre que les vertus vous libèrent et donc augmentent votre liberté. C'est peut-être la manière dont aujourd'hui on devrait regarder les vertus. Ça augmente votre liberté intérieure, votre liberté, votre champ intérieur de liberté. Libération à l'égard de ce lien, de cet appétit naturel à l'égard de l'aliment, à l'égard de la boisson. Bon, ça s'explique dans l'éthique humaine. Vous voyez, un ami qui est encombré de ce qu'il va manger, de ce qu'il va boire. C'est très empoisonnant. Dès qu'il rencontre son ami, il raconte le repas du tiers. Ça existe, ça. C'est terrible, ça existe. Oui. Et alors, à ce moment-là, son cœur n'est pas libre. Et donc, il ne peut pas aimer librement. L'exigence de l'amour d'amitié, c'est quand même quelque chose de très grand. Et l'exigence de l'amour d'amitié, non seulement d'amour, d'amitié à l'égard d'un, mais à l'égard de tous les hommes. C'est-à-dire être capable de rencontrer une personne humaine, être capable d'être associé à une personne humaine et de coopérer avec une personne humaine. La chasteté me libère de l'appétit sexuel. Libération à l'égard de l'appétit sexuel. Que je ne suis pas encombré avec cette imagination qui risque, lorsque je laisse aller librement la passion, d'envahir mon imagination. Et quand mon imagination est encombrée de cela, je ne suis pas libre. Oui. C'est la même chose. Alors, je crois que l'amour d'amitié commande, du moins exige, la chasteté, c'est-à-dire la domination de la personne humaine sur ses appétits sexuels. Considérer que ça existe, les mépriser, ou plus exactement, ne pas vouloir les regarder. Ce n'est pas assainir le terrain. Il faut avoir suffisamment de lucidité dans ce domaine pour qu'il y ait ce point de vue humain de domination à l'égard de ses appétits. L'imagination peuvent à certains moments m'assaillir. Comme sur l'imagination, je n'ai pas un pouvoir direct. Je peux être comme encombré par cela. Et la vertu, alors, fait gagner du terrain pour assainir et permettre de ne pas m'en occuper. D'avoir un regard qui dépasse. Et si je suis en lutte, de savoir lutter dans ce domaine pour être victorieux. Parce que, de fait, se laisser aller aux insectes sexuels augmente l'emprise passionnelle de l'appétit sexuel sur ma sensibilité. C'est pour cela, vous voyez, que les sensibilités malades ou vicieuses fait que l'appétit sexuel peut très bien encombrer tout le champ de l'appétit sensible. Or, Freud, n'oublions jamais, sa grande expérience est l'expérience des malades. Et il oublie la différence entre l'expérience du malade et l'expérience humaine. Freud aurait rencontré des saints. Il aurait compris que le domaine du sensible par rapport à l'aliment et le domaine du sensible par rapport au point de vue sexuel n'est pas le même. Tandis que ce qui est très curieux, ça c'est un fait, c'est que la maladie, augmentant l'imaginaire, fait qu'à ce moment-là, par l'imaginaire, il y a confusion. C'est pour ça que je dis, c'est les sensibles communs. Et fait qu'au niveau imaginaire, je ne peux pas faire la distinction. Et au niveau imaginaire, je vois tout de suite l'emprise beaucoup plus forte de l'instinct sexuel sur l'instinct de l'aliment. Alors que normalement, l'instinct sexuel doit être cantonné, déterminé. Et par le fait même, on peut beaucoup plus facilement dominer. Et l'exercice, alors, de l'instinct sexuel pourra être réglé selon le point de vue humain et prudentiel. Selon l'éthique humaine, on dira que ce sera dans le mariage où l'instinct sexuel pourra se développer. Et en dehors de là, la chasteté fait que toutes les forces humaines sont ennoblies pour une finalité plus grande. Parce que c'est très vrai qu'il y a une véhémence de l'instinct sexuel, donc une véhémence qui provient des forces de l'instinct sexuel qui demande d'être canalisée, ordonnée vers une fin supérieure. Et c'est propre de la vertu. C'est pour ça que la vertu fait que ces forces sont canalisées vers quelque chose de supérieur. Oui. J'aime mieux dire canaliser que sublimer. Parce que c'est vraiment l'aspect de la détermination. C'est même très étonnant, ça, si on est un tout petit peu lucide, on s'aperçoit très bien, lucide sur soi-même. puisque c'est le propre de la vertu. La vertu, c'est pas la loi. Vous voyez, Freud ne regarde jamais la vertu. Il regarde toujours le point de vue de la loi, donc le surmoi. Être chat, ce n'est pas un surmoi. Tandis que lutter contre l'appétit sexuel uniquement à cause de la loi et à cause des coutumes, parce qu'on demande d'être comme ça et qu'il ne faut pas se manifester de telle ou telle manière, alors ça crée un surmoi. La loi crée un surmoi, mais pas la vertu. La vertu assume, au contraire, de l'intérieur et rend lucide. Ça, c'est très très important, oui, au point de vue éthique, de bien comprendre la différence entre les deux. La loi est de l'extérieur. Or, le surmoi vient toujours de l'extérieur. Oui. Je vous donne un petit exemple, par exemple. Quand je fréquentais les psychanalystes freudiens, et que de temps en temps, à titre d'expérience, du moins à titre parce que on allait à droite et à gauche. Et puis, le fait qu'on porte l'habit est un rappel d'une loi. Alors je me souviens très bien, c'était un petit restaurant italien. Et c'était particulièrement éloquent, c'est pour ça que je prends l'exemple. Minutes, celui qui nous servait se penchait vers moi et me dit « Ah, père, où est-ce que vous habitez ? Parce que mon fils n'est pas baptisé. » Alors, il l'entendait à côté de moi, il dit « Voyez le surmoi. » Alors, est-ce que c'est tout à fait juste ? Est-ce que c'est un surmoi ? Est-ce que c'est un rappel par rapport à quelqu'un et chrétien et religieux, dans le fond de son cœur, il sait bien qu'il aurait dû baptiser son enfant. Il n'a pas eu le temps. Il faut du temps pour baptiser un gosse. Parce qu'il faut être fait. On n'a pas le temps. Mais dès qu'on voit un religieux, on se dit, ah, mais oui, oui, il n'y a que ce qui est pas. Vous voyez, le rappel. Alors, est-ce que le rappel, c'est nécessairement un surmoi ? Est-ce que la cause exemplaire est nécessairement un surmoi ? C'est très important d'essayer de comprendre ces choses-là, vous voyez ? Tout dépend du degré de vertu qu'on a. Si on est vraiment religieux, profondément une âme religieuse, si on a la foi, mais le psychanalyste ne regarde pas la foi, le freudien ne regarde pas la foi, mais si on a la foi, la présence d'un prêtre religieux, mais c'est un rappel, oui, je devrais baptiser mon gosse. S'il n'y a plus de présence d'habits religieux, il n'y pense plus. Vous voyez, la foi fait que l'habit rappelle quelque chose, et ce n'est pas un surmoi. Mais ça peut être jugé de l'extérieur comme un surmoi. Si ça devient de la superstition, c'est un surmoi. Si c'est uniquement parce que ça doit se faire, alors ça peut être un surmoi. C'est très délicat. Et c'est toujours très important d'essayer de comprendre cela. Eh bien, la vertu diminue le surmoi. Parce que la vertu fait que tout est assimilé en vue d'un bien. Et ça, Freud ne l'a pas vu. C'est très significatif et c'est très important de comprendre ça. La vertu de chasteté fait qu'on lutte contre les appétits sexuels. On lutte en vue d'un bien. Et donc, on assimile ces forces, on ne les rejette pas. On les assimile en vue d'un bien humain, en vue d'une unité, tandis que celui qui lutte sans vertu, celui-là risque, évidemment, d'augmenter le surmoi. Mais ils savaient comprendre l'attitude des psychanalystes qui disent ne luttez pas, mais non, ça n'a pas d'importance. Laissez les instincts libres, parce qu'en luttant, vous augmentez le surmoi, mais pas du tout. En luttant d'une façon humaine, on canalise en vue que toutes ces forces soient utilisées vers une finalité supérieure. Et c'est ça le propre de la vertu. Et la vertu de chasteté doit être cela, pour nous donner une force nouvelle, pour lutter contre des instincts qui sont en nous. C'est évident, on a tous ces instincts. Et à cause, on peut le dire en tant que chrétien, à cause du péché et des conséquences du péché originel, cet instinct sexuel a une force plus grande qu'il ne devrait avoir normalement. Et là, il n'y a rien d'original. Chacun d'entre nous, ça fait partie des concupiscences charnelles. Et ces concupiscences charnelles sont la conséquence du péché. Et donc ces instincts peuvent, à certains moments, être plus forts, à d'autres moments, en fonction de l'éducation qu'on a reçue, en fonction de l'atavisme qu'on a, ils sont plus ou moins forts. Ça varie selon les individus. On doit le connaître, on doit le savoir, ça fait partie de la prudence. Pour essayer de capter tout cela, toutes ces forces vives, en vue d'un bien supérieur. Je crois que la vertu de tempérance et la vertu de chasteté font partie de l'éthique humaine. Tandis que l'esprit de virginité fait partie de l'éthique religieuse. Alors on va essayer de comprendre cela. L'esprit de virginité, quelle différence y a-t-il entre l'esprit de virginité et la vertu de chasteté? La vertu de chasteté, c'est la domination sur soi à l'égard de ses instincts sexuels pour qu'on fasse que ces instincts sexuels ne nous encombrent plus. Pour que, imaginativement, nous soyons quand même maîtres de nous-mêmes, maîtres de ces instincts. Et quand ces instincts se manifestent, on arrive à les dépasser, à ne pas être esclave de ses instincts. Et ne pas faire que dès que ses instincts, immédiatement, on doit les assouvir. Alors on les assouvit, vous voyez bien, parce qu'on abdique quoi? Toute la masturbation. C'est au fond l'abdication. C'est un signe de faiblesse. Au point de vue éthique et éthique humaine, on doit le dire, que toute masturbation est un signe de faiblesse. On n'arrive pas à dépasser parce qu'au fond, c'est accepter, vous voyez, individuellement, personnellement, accepter que dès que l'instinct sexuel se manifeste avec une certaine force, on abdique. Donc c'est un signe de faiblesse. Et la vertu de chasteté consiste à dire que ces instincts qui se manifestent sans qu'on le veuille, hein, c'est un amour instinctif. Cet amour instinctif qui peut se manifester de telle ou telle manière, par telle ou telle image qui se vient en nous, bien tout simplement parce que c'est le printemps. Alors c'est la sève qui monte. C'est évident que la sève monte. Le printemps, quand on est jeune, le printemps, quand on commence à être plus âgé, un vieillard, c'est différent. N'est-ce pas? Mais autrement, c'est vrai. Et puis il y a des tempéraments très violents, très forts. C'est bon, du reste. Pas mauvais d'être passionné, heureusement. Et de sentir l'instinct sexuel n'est pas mauvais. S'il faut le dépasser. Il faut le dépasser pour être maître de son corps. Et être maître de son corps, c'est être maître de ses instincts. Oui. c'est pas pour le plaisir de rester vertueux. Ça, c'est de la blague. À moins qu'on soit stoïcien. Mais vous savez, le stoïcisme cache beaucoup de choses. Ils sont propres au regard des hommes, mais intérieurement, c'est pas toujours très net. Parce que je ne crois pas du tout à la chasteté pour le plaisir d'être chaste. Je crois à la chasteté pour un plus grand amour. Et humainement, c'est aimer l'autre pour lui-même dans ce qu'il a de meilleur. Et non pas l'aimer uniquement pour sa sensibilité et pour le plaisir qu'il peut nous donner. Plaisir charnel. Oui. C'est ravir l'ami. C'est l'abaisser que de l'aimer uniquement pour la jouissance. Alors que si on l'aime profondément, on l'aime pour lui. C'est très important, ça, de bien comprendre que un amour inférieur, donc l'amour de l'aliment, ou l'amour sexuel, qui reste un amour lié au corps, donc à notre sensibilité individuelle ou spécifique, cet amour demande d'être dépassé par un amour supérieur qui est spirituel, qui est l'amour de la personne pour son ami, pour l'homme. Alors, l'homme, c'est pas concret, donc c'est l'ami. C'est le respect que l'ami a du corps de son ami, le respect qu'il a de sa sensibilité, et qu'il veut l'aimer pour avec lui faire une œuvre humaine. La virginité va plus loin. L'esprit de virginité consiste à comprendre qu'on peut offrir son corps, le consacrer dans la ligne de l'adoration. Et qu'en réalité, ce n'est pas des victimes extérieures à nous, mais c'est nous-mêmes qui nous offrons en victimes d'amour. L'esprit de virginité ne peut se comprendre que dans la ligne de l'adoration. Et je vous disais même de la contemplation. Donc d'une adoration plénière en esprit et en vérité. L'esprit de virginité consiste à consacrer son corps à Dieu. Pour que nous soyons plus liés directement à Dieu. Et l'esprit de virginité consiste à dépasser tout ce domaine de l'aliment et de la sexualité en vue d'un plus grand don à l'égard de Dieu. Et donc, on considère que l'amour à l'égard de Dieu a réclame quelque chose d'exclusif. Oui, selon les expressions de l'Écriture, on parlera de la jalousie de Dieu. En comprenant bien ce que ça veut dire, c'est que Dieu veut tout. Alors que, de fait, quand il n'y a pas cet esprit de virginité accepté, pleinement vécu, je ne dis pas qu'on partage avec Dieu, mais Dieu ne peut pas exercer de la même manière sur la personne humaine sa jalousie d'amour pour quelqu'un qui est marié et pour quelqu'un qui se consacre totalement à lui. La jalousie, c'est donc, je veux dire, la virginité, c'est donc la réponse de l'homme à cette jalousie divine qui veut tout et qui réclame tout. Donc c'est un esprit qui réclame la chasteté. On ne peut pas avoir un esprit virginal sans chasteté. C'est impossible. Donc qui réclame la chasteté, qui réclame cette domination sur son propre corps pour que tout soit offert à Dieu, pour que tout soit donné à Dieu, donné dans un don personnel, un don d'amour. Alors, je crois que l'esprit de virginité, c'est typiquement l'éthique religieuse. Dieu seul peut réclamer ça. Un être humain ne peut pas réclamer ça. Il deviendrait l'idole. Quand quelqu'un dit « Je veux avoir un esprit de virginité par amour pour toi », ça signifie rien du tout. À ce moment-là, je ne dis pas du tout « Je ne suis pas un idole ». Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut réclamer la totalité du cœur humain. Il n'y a que Dieu qui peut réclamer cet amour exclusif. Il n'y a que Dieu qui peut réclamer d'être premier au sens absolu. Et c'est l'amour divin qui s'impose à nous d'une manière absolue. Et qui veut que non seulement notre esprit, notre intelligence reconnaisse son primat, mais que ce soit à travers tout notre corps et notre sensibilité, tout nous-mêmes. Vous voyez, c'est le prolongement de l'adoration, en quelque sorte, qui s'empare de notre corps pour que notre corps soit relatif entièrement à Dieu, pour que nous devenions le temple de Dieu. Et on devient le temple intérieur de Dieu par l'esprit de virginité et dans l'esprit de virginité. Là, on comprend l'affinement de la vertu de tempérance, de la vertu de chasteté dans cet esprit de virginité. Et on pourra dire alors que d'une certaine manière, vous voyez, c'est un appel de Dieu, une vocation. Est-ce que la vocation n'est-elle pas, premièrement, philosophiquement parlant, hein, dans une éthique religieuse, l'esprit de virginité? Je crois. On peut parler de vocation au niveau purement éthique religieuse. C'est un rapt de Dieu. C'est Dieu qui passe et qui veut tout. Et qui prend tout. Et qui veut tout prendre. Qui veut prendre l'esprit et le corps pour que nous soyons, vous voyez, vraiment offerts. Vous voyez, comme l'adoration implique l'esprit et le corps, cette adoration va s'étendre profondément en nous pour que tout soit offert à Dieu. Exclusif, il y a quelque chose d'absolu. La vertu de tempérance et la vertu de chasteté n'ont pas quelque chose d'absolu. Il demeure toujours quelque chose de relatif. Mais c'est ça qui est très très curieux. Il y a quelque chose de relatif dans le point de vue de l'esprit, dans le point de vue de l'exercice de la chasteté. C'est la prudence pour chacun d'entre nous. En face des luttes, mais chacun lutte d'une façon personnelle et individuelle, connaissant ses tentations propres, ses faiblesses propres. L'esprit de virginité en quelque chose d'absolu, puisque c'est l'absolu de l'amour de Dieu qui veut tout. Et qui veut s'emparer de tout en nous. Et, j'allais dire, mettre la marque de l'absolu de Dieu jusque dans notre sensibilité, jusque dans notre corps. certain dépassement de l'éthique dans la contemplation et une certaine exigence très particulière de l'éthique dans l'obéissance. Alors on peut regarder l'obéissance avant ou la contemplation avant, ça se tient. Comme pour la virginité, ça se tient. Alors regardons d'abord l'obéissance, si vous voulez, parce que c'est une vertu plus morale, plus éthique. Comment l'éthique religieuse va-t-elle avoir une exigence nouvelle en nous? L'éclosion d'actes d'obéissance et donc l'éclosion de la vertu d'obéissance. Je ne crois pas qu'en éthique purement humaine, on puisse parler de l'obéissance, sauf au niveau de la famille, sauf au niveau de l'État. L'éthique humaine peut très bien comprendre le prolongement aspect politique. Et le fondement de la politique, c'est la famille. Donc, une éthique humaine se prolonge en éthique politique. Et l'éthique politique est fondamentalement l'éthique familiale. Il y a une éthique familiale. Et l'éthique familiale est quelque chose de particulier. Et voyez, chaque foyer, chaque famille a son éthique familiale. Parce que chaque famille représente un certain tout. Pas uniquement quantitatif. Représente un certain tout, représente une certaine communauté. Et il y a là une éthique spéciale. Et suivant, vous voyez, les mœurs, je dis bien les mœurs de chaque l'éthique familiale prend des modalités différentes. Et l'éthique familiale religieuse prendra une physionomie particulière. C'est très important pour nous, puisque nous devons réfléchir sur la famille. Alors il faut bien voir toujours, là encore, les trois niveaux de la famille. Mais l'éthique familiale est politique. C'est le fondement de la politique. Donc je ne devrais pas en parler maintenant. J'en parle uniquement à titre d'appendice, de nota bene, pour que vous compreniez bien que l'obéissance naît au niveau de la famille et au niveau de l'éthique humaine. Au niveau de la famille. Ça, c'est sûr. Il ne peut pas y avoir une famille sans l'exercice de l'autorité. C'est impossible. C'est pour ça que Freud, poussé à l'extrême, brise la famille. Et on sait bien, la conséquence du Freudisme, c'est que la famille n'est plus du tout aujourd'hui ce qu'elle est, ce qu'elle était avant. Il y avait peut-être des exagérations, c'est sûr. Le pater familias, quelquefois, c'est le pater familias. Et alors, il y a des exagérations, comme tous ceux qui exercent l'autorité, il peut y avoir des exagérations. C'est pas parce qu'il y a des exagérations que la réalité disparaît. Pater familias représente le père qui exerce l'autorité. Et le père qui exerce l'autorité, c'est quelque chose de très grand. Et c'est aussi redoutable. Un enfant a toujours un peu peur de son père. C'est normal. Je ne dirais pas que c'est mauvais. C'est normal, après tout. Avoir un peu le sentiment de crainte, c'est pas mauvais. Quelqu'un qui n'a jamais eu le sentiment de crainte, il lui manque quelque chose. Et avoir eu un tout petit peu peur de son père, ben c'est pas mauvais. Ça reste un peu, finalement on dira qu'il y a des séquelles après, on dira, et tout viendra de ça. Le père sera cause, l'exercice de l'autorité du père sera cause de tous les déséquilibres, absolument tous. fraternité n'est pas liée non plus à l'autoritarisme. Mais il est très difficile pour une mère d'être pauvre. Je crois qu'il n'y a que Marie. Donc ça existait. Philosophiquement parlant, ça existait. Il y a eu une mère pauvre. Vous ne pouvez pas nier. C'est possible.